avec notre prof de musique, en fait, à la fin de l'année, on chante pour montrer tout ce qu'on a fait et toutes les choses qu'on a apprises. Et ça faisait quoi de les exposer aux autres? Si c'était du bonheur, de la tristesse, de la colère.
Moi, j'ai souvent fait des spectacles un peu danse ou chant. Je pense de mon CP jusqu'à la fin de mon primaire. C'est vrai que ça met parfois mal à l'aise, surtout qu'on est devant toutes les classes, devant tous les parents.
Moi, j'étais dans une primaire où on faisait beaucoup de spectacles et justement, ils aimaient bien faire participer les enfants, nous faire faire du théâtre, de la danse.
C'était une danse alsacienne et après tout a changé et c'est devenu un tableau de forêt et ça parlait d'aventure.
Moi, j'avais fait un spectacle de yoga, voilà, en fin d'année et de hip-hop. Pour le yoga, j'avais 4 ans et le hip-hop, je devais en avoir 12.
On présentait aux parents notre spectacle genre devant toute l'école et à la mairie même des fois et franchement, c'était super bien.
Il y a des gens qu'on connaît pas, on commence à avoir peur.
Je stressais pas parce qu'en fait, toute la semaine, j'avais révisé.
Et je pense que ça peut être quand même sympa pour aider les enfants à être plus à l'aise devant les gens et à être plus à l'aise à parler devant plusieurs personnes et ça peut être cool pour apprendre à être éloquent.
Moi, je conseillerais qu'on pense que c'est la famille et après, ça va être plus simple. C'est comme si on était chez nous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais dédier cette émission à ma cousine Rido. Laissez-moi vous expliquer. Quand j'étais petite, avec plein de cousins-cousines, on organisait des spectacles de théâtre. On était fiers de jouer devant les adultes. C'était sans doute très rasoir, mais nos parents étaient sympas, ils regardaient. Il y a eu une année où une cousine n'a pas voulu participer aux préparatifs. La flemme d'apprendre un rôle et de se déguiser. Mais le jour J, elle fut triste de ne pas en être. Alors elle a trouvé un rôle au tout dernier moment. Elle a écrit « Rideau » en grosses lettres sur une feuille de papier et elle a scotché la feuille à son pantalon, sur ses fesses. Quand on voulait signifier que le rideau se baissait entre deux actes, elle traversait la scène de dos pour montrer la fichette « Rideau » collé à ses fesses. Et ce fut le clou de ce spectacle. La cousine Rideau illustre à merveille la joie collective que suscite la scène et aussi combien cela stimule la créativité et l'imagination. En cette saison des spectacles de fin d'année, posons-nous la question, qu'apprennent les enfants en montant sur scène, que ce soit pour jouer, pour chanter, pour danser, que vivent-ils précisément? Il y a le trac qu'on apprivoise, bien sûr, la timidité qu'on surmonte, le travail de la mémoire, mais aussi le rapport au corps, le rapport aux autres et le rapport au texte. Et puis jouer un rôle, c'est incarner les émotions d'un personnage. C'est un apprentissage de l'empathie. Une expérience marquante, surtout. Une fabrique de souvenirs. Ma cousine Rideau, assurément, ne se doutait pas qu'elle me marquerait autant. C'est parti. Les bienfaits du pestacle quand les enfants montent sur scène.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
France Inter.
Avec deux invités dans ce studio, une troisième nous rejoindra tout à l'heure. Bonjour Florian Azoulay.
Bonjour.
Bienvenue dans Barbatruc. Vous êtes auteur et metteur en scène de théâtre, spécialiste de Shakespeare, que vous traduisez et que vous publiez aux éditions Les Belles Lettres, et directeur artistique et pédagogique de La Salle Blanche. C'est une école de théâtre à Paris qui travaille notamment avec des adolescents et des adolescentes. Bonjour Clémentine Marmet.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes comédienne et prof de théâtre. Le Théâtre de Clémentine,
oui,
c'est le nom de votre association qui donne aussi des cours de théâtre aux enfants, aux ados, même aux adultes,
oui,
à partir de 6 ans. J'aimerais vous demander à tous les deux, avant toute chose, de me raconter un souvenir. La scène, disais-je, suscite des moments marquants. Est-ce que vous vous souvenez en quelques mots d'un moment qui vous a touché ou ému ou fait rire avec des enfants sur une scène?
Oui, il y en a des tas lors des spectacles de fin d'année, parce que on est confronté à l'inattendu, donc à la surprise. Une élève qui se casse la figure, par exemple, sur scène en arrivant en courant. Et
la mécanique du rire est impeccable.
Alors heureusement, bien sûr, elle le prend avec humour et c'est bien parce qu'on apprivoise au théâtre aussi ces moments un peu ridicules. Mmh. On les apprivoise pendant les exercices tout le long de l'année et elle a su très bien en jouer. Elle a regardé le public fermement. Les autres comédiens fermement, elle s'en est très bien sortie. Et ça a suscité du coup l'envie de jouer de la part des autres comédiens et puis de se soutenir aussi. Dans ces moments-là, on se soutient énormément, quoi.
C'est un travail de troupe.
Exactement.
Florian Azoulay, même question.
J'ai, beaucoup de souvenirs aussi. Un me revient immédiatement
à l'esprit. Lorsque j'ai commencé en tant qu'enseignant, je donnais des cours dans le cadre de stages organisés par l'Académie Prince Rainier III de Monaco pour des élèves musiciens qui voulaient un petit peu physiquement, enfin, aborder le théâtre. Voilà. On avait monté un petit spectacle dans le cadre donc d'un petit stage de printemps avec beaucoup d'accordéonistes, et on travaillait sur Ma mère Loi de Maurice Ravel, auquel j'avais mêlé des textes de Madame d'Aulnoy, Madame le Prince de Beaumont, etc., etc. Et l'arrangement, si vous voulez, la musique de Ravel est sublime, et l'arrangement pour 14, 15, 16 accordéons, je sais plus, sonnait, c'était affreux comme ça sonnait. Mais c'était affreux, et pourtant, il y avait quelque chose de la musique sublime de Ravel qui nous parvenait malgré cette espèce de cacophonie incroyable. Et je me suis toujours dit ça, je me suis dit, même mal joué, même joué maladroitement, même si ça sonne faux, même si on est avec du papier crépon ou que sais-je, etc., etc., une grande partition, un grand texte parvient toujours à nous atteindre et à nous émouvoir.
Joli moment de grâce à l'accordéon. Cette émission, c'est une troupe en partenariat avec Bayard Jeunesse. Elle est préparée par Emma Ferrer, réalisée par Christophe Imbert. Mathias Alléon est à la technique. Jean-Baptiste Audibert choisit la musique. C'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Sur France Inter avec Dorothée Barba.
Vite, extrait du deuxième album électropop de celui qui se fait appeler Miel de Montagne. En voilà un nom de scène original, Miel de Montagne sur France Inter. Nous parlons de la scène cette semaine dans Barbatruc, les vertus du spectacle qu'apporte aux enfants et aux ados le fait de se produire devant un public. Clémentine Marmet, je rappelle, oui, que vous avez une école de théâtre à Paris.
Tout à fait.
Est-ce que vous diriez que tous les enfants sont faits pour ça?
Mais bien sûr, tous les enfants sont faits pour faire du théâtre. Non, mais c'est vrai que ça apporte énormément de choses. Le théâtre, ça permet aussi de prendre confiance, d'être à l'aise après avec ses émotions, de pouvoir s'exprimer devant un public. Ça fait travailler énormément de domaines. La mémoire émotionnelle, la mémoire du texte, la mémoire des déplacements, tout ça.
Je pense aux parents qui nous écoutent. Pour autant, on ne force pas un enfant qui n'a pas envie.
Alors non, on force pas un enfant qui n'a pas envie, mais je trouve que quand même à 5-6 ans, faut essayer de leur faire découvrir des activités nouvelles. Oui. Parce que souvent, il y a des enfants qui sont dans le refus aussi. Parce qu'ils se font parfois une fausse idée de ce que ça peut être. On peut aller voir un spectacle comme ça avec ses parents et puis se représenter des choses qui sont pas forcément vraies quand finalement on est de l'autre côté, quand on est sur scène. On a été mis en confiance avec d'autres enfants, avec la prof, les improvisations qui permettent de mettre à l'aise, et puis tout le travail sur l'imaginaire, bien entendu. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, on s'apprivoise et on est dans le jeu. Pourquoi un enfant serait pas à l'aise sur scène, puisque c'est du jeu, c'est l'essence même du jeu, quoi.
Et là-dessus, tous les spécialistes de l'enfance s'accordent à dire que l'enfant, l'adolescent a besoin de jeu. Ça fait partie des nécessités pour le développement de l'enfant.
Oui.
Qu'en pensez-vous, Florian Azoulay? Est-ce que c'est pour tous les enfants, le théâtre?
Je dirais a priori oui, parce qu'il faut être positif. C'est difficile, en tout cas en tant qu'enseignant, selon le temps qu'on a devant nous, parfois de mesurer à quel point cela change les élèves, voyez. Il y a en effet des enfants qui profitent d'une expérience, d'un stage de théâtre ou d'une activité théâtrale, qui profitent de ça pour lutter un petit peu contre leur timidité. Il y en a pour qui c'est l'occasion de se cultiver, tout simplement, et d'aborder un répertoire littéraire. Bon, moi en tout cas, j'ai toujours été étonné en fin de stage ou lorsque les spectacles de fin d'année arrivent, j'ai toujours étonné de voir à quel point chacun a été transformé d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, ça met un temps dingue et vous rencontrez des élèves des années après, qui vous disent « Oh, à quel point ils avaient été bouleversés par cette expérience, que c'est un souvenir, etc. » Donc, c'est très mystérieux tout ça, c'est très mystérieux.
La parole est aux enfants pour tenter de percer en partie ce mystère. Notre reporter a promené son micro dans les rues. Juliette Proutot a demandé à des enfants de raconter leur expérience de spectacle devant un public avec l'école ou en dehors de l'école.
Bah, moi quand j'étais petite j'étais un peu timide, du coup j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée, puis je voulais pas rater les danses et les trucs comme ça, mais en même temps on est un peu tous ensemble avec nos copains et on veut un peu impressionner nos parents, donc c'est quand même une bonne ambiance, même si on a un peu le trac quand on est petit, mais non, moi c'est des bons souvenirs.
Est-ce que vous avez déjà fait des spectacles?
Moi je vais faire un... on va faire de la danse. C'est une danse hawaïenne. On va danser dans l'école.
Et ça a été long pour apprendre un peu toute la chorégraphie et tout?
Oui, très long. On n'arrêtait pas de répéter les pas de danse et après on a retenu.
Mais ils ont dit qu'il faut qu'on soit habillé de n'importe quelle couleur, mais des couleurs joyeuses.
Oui, on avait fait de la chorale. J'aime bien, souvent, quand on chante, on trouve de nouveaux mots dans les paroles. Du coup, j'aime bien.
Non, j'avais parlé devant ma classe, mais pas chanté. Et donc, moi, j'ai jamais chanté. Comme c'est la première fois que je le fais, je sens un peu timide. J'aime pas trop, moi.
Oui, bah, moi, je faisais tout le temps ça. Enfin, je sais que c'était avec mes cousines. C'était vraiment, quand on était petites, c'était à chaque fois qu'on se voyait... Bon, on faisait des petits spectacles comme ça et tout.
Ça, c'est des bons souvenirs aussi. Hein. Ouais, parce que là, c'est vraiment nous qui créons le spectacle pour nos parents. Mais surtout de la danse, moi. C'était plutôt de la danse que du théâtre. Ouais, c'est musique actuelle et on dansait. On faisait un peu n'importe quoi. Mais en vrai, c'est un truc pour mes enfants. J'aimerais bien voir, enfin, me mettre à la place de mes parents pour voir ce que ça fait. Oui.
Et c'est la joie que je retiens, Clémentine Marmet. Elle est fondamentale, la joie de jouer pour les enfants?
Oui, elle est fondamentale parce que le théâtre, c'est festif. Alors après, la joie, oui, lors de la représentation, mais lors des répétitions, effectivement, il y a le travail qui vient en amont et ça peut être parfois un peu difficile, quoi. C'est normal, on travaille. Donc, il faut aussi chercher comment on va jouer le personnage, comment on va dire le texte. On est confronté forcément à des situations parfois qui a des petits problèmes, quoi. Mais les petits blocages se résolvent petit à petit. Et puis, la joie, effectivement, lors des représentations, c'est essentiel. On les laisse d'ailleurs avant les représentations, les élèves se libérer entre eux, à chuchoter avant de rentrer sur scène, se raconter des petites blagues et puis se surprendre au moment de la représentation. Et c'est un échange bien sûr entre les enfants, le public et puis après les parents. Et c'est ça qui est libérateur, ouais.
On incarne les émotions d'un personnage, a priori sur scène, les émotions de quelqu'un qui n'est pas soi. C'est un exercice d'empathie, le théâtre.
Mais bien sûr, c'est bien sûr que ça. Un un exercice d'empathie déjà avec son partenaire, avec le personnage et avec le public. Mais effectivement, le fait d'avoir un personnage, c'est très rassurant pour les enfants. C'est très rassurant parce qu'ils s'identifient au côté positif, au côté négatif du personnage. Et ça permet aussi de se construire à partir du personnage et de l'incarner. C'est important d'incarner, d'être dans le corps, de trouver une animalité aussi qu'on a perdu adulte un petit peu.
Vous avez en tête un personnage qui fonctionne bien, en particulier un texte qui fonctionne bien pour les enfants à ce titre-là ?
Oui, on travaille beaucoup sur les contes, la mythologie, sur des spectacles d'horreur aussi avec les ados, ils adorent. le mythe de Narcisse, là on travaille cette année sur la fable de Venise avec des personnages de la Commedia dell'arte. Donc ils sont avec
et on exacerbe les émotions là pour le coup.
Mais bien sûr, avec le corps, avec la voix et tout ça, et c'est vrai que ça leur donne énormément confiance parce qu'ils sont pas seuls, ils sont non seulement avec le personnage. Et à la fin de l'année, ils sont aussi avec le public. Et ça, on l'oublie. Mais le public est très important parce que le personnage, c'est assez... On peut le prendre un peu comme un fantôme au début et puis qu'on incarne. Et le public, il est là. C'est un corps, vous voyez le public. Il est présent, il a des yeux, il est humain. Et d'un coup, c'est ça qui donne l'effervescence sur scène parce que le public, en fait, est rassurant. Il est d'un concret. Et c'est ça qui impressionne du coup les enfants et puis qui permet aussi de trouver de nouvelles choses sur scène, d'improviser, etc. Mais c'est vrai que le personnage nous aide après tout le long aussi de notre vie.
Moi, j'ai un peu le trac rien que de vous entendre parler du public et vous dites qu'il est rassurant pourtant.
Mais bien sûr, il est bienveillant. Souvent, on se dit « Ah, mais il va dire ça de moi, gna gna gna, il va être méchant et tout ça. » Mais non, mais pas du tout, c'est pas un diablotin le public. Et surtout pour les spectacles pour enfants, c'est la famille, les amis. Mais c'est vrai qu'en tant que professionnel, on a toujours cette appréhension et il faut toujours se mettre un peu à la place du public, je pense, avant de jouer et de se dire, mais en fait, ils ont envie de s'amuser, de passer un bon moment, se divertir et on a tendance à l'oublier.
On va parler du trac justement dans un instant, sujet très important. Voici d'abord la Jamaïcaine Kofi sur France Inter.
Town, we original. In a Jordan, so we stepping out. Yeah, Jada light shine for my retina. In my guide, all the steps I take. Yeah, guiding the steps I take. Whoa, young for me, grateful. Sit high for me, lay low. Balancing, me dip on the road in a quarantine. Me dip on the road in a Balenciaga. Eh, new Fenty for my Prada. Eh, yeah. Inside, yeah. Light up, don't fight it. Fire, ignite it, yeah. Oh, yeah. I'm with it. Mama, you give me the prediction, yeah. I have life, I'm blessing, yeah. I'm guided and gifted, yeah. But it's a new day. Might get caught up in a new wave. Chop the track up in a new wave. If it taught me, get a few plays. Spin it and fling it on back. And if I sing it, I win a gold plaque. Yeah, next year platinum that. And them can't lock me up from a dreadlock, yeah. Killing them boomer, yeah. All these blessings where I come my way. Pray to the Father, say come by, yeah. Full up my plate and broke my tray. Yeah. Bum. Oh.
Samedi à 15h.
En cette saison des spectacles de fin d'année, spectacles de chorale, de théâtre, de danse, nous parlons des bienfaits de la scène pour les enfants dans Barbatruc. Montez sur scène avec Florian Azoulay et Clémentine Marmet, tous les deux travaillent autour du spectacle vivant avec des enfants. Florian Azoulay, monter sur scène pour jouer un texte, c'est aussi s'approprier ce texte. Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure manière de donner aux enfants le goût de la littérature ?
La meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une manière que je trouve à chaque fois efficace. La connaissance des textes, des grands textes, quand elle est abordée dans le cadre des cours de français avec des questions, vous voyez, des examens, voilà, qu'on note, etc., etc., assèche le rapport qu'on peut avoir à la littérature. Passer par l'expérience de rendre à voix haute un texte, le faire passer dans son corps, ça donne quand même une appréhension de la littérature qui est une appréhension, pour moi, beaucoup plus vivante.
Est-ce que vous êtes surpris parfois par la façon dont les enfants s'emparent de textes qu'on pourrait croire compliqués ou exigeants ?
Oui, mais en règle générale, les enfants me surprennent quoi qu'ils fassent, pas simplement à l'endroit de la littérature. Je n'hésite jamais à aborder avec des enfants. Alors, tous les répertoires possibles, même les grands textes.
Vous êtes spécialiste de Shakespeare, je le disais. Vous faites jouer Shakespeare à des tout petits ?
Alors, à des tout petits. Je dois faire une petite correction, si je puis me permettre, sur ce que
c'est
vous disiez.
C'est plutôt les ados.
Voilà, enfin les adolescents, ou même mon école, l'école que je dirige, la Salle Blanche avec Xavier Gallet. Ce sont des gens qui ont de 18 ans, voilà, etc. Bon,
et mais vous avez aussi travaillé avec des enfants et des adolescents.
Et avec les adolescents ou les enfants, mais bien sûr, vous parliez de Shakespeare, notamment il y a un livre magnifique que j'ai eu l'occasion de traduire pour les Belles Lettres, qui s'appelle Les Contes de Shakespeare de Marie et Charles Lamb, deux auteurs du début du 19e siècle qui avaient adapté sous forme de contes les grandes tragédies, les grandes comédies de Shakespeare. Ce répertoire, grâce à ces deux auteurs, est accessible pour les enfants, pour les plus petits.
Clémentine Marmet, oui. Shakespeare et les ados, ça marche ?
Mais bien sûr, on fait... Nous, on joue Roméo et Juliette cette année.
Comment ça se passe ?
Très bien. J'adore Roméo et Juliette. Mais c'est important de faire jouer des textes comme ça...
Exigeants
et très riches en termes de littérature aux enfants... Parce que c'est là qu'ils vont puiser les émotions. Moi, je fais très attention au choix des textes parce que ça leur permet de développer... Le fait qu'il y ait une émotion riche permet de développer plus l'imaginaire. Vous voyez, parfois, les parents sont freinés en se disant « Oui, mais attendez, c'est un peu compliqué pour les enfants. » Mais non, il ne faut pas les sous-estimer, les enfants. Ils sont tout à fait... Surtout à 12 ans, hein, pour jouer Shakespeare, je pense que c'est un bon âge pour commencer à jouer ce genre de texte. Et il faut essayer de les ouvrir le plus possible, quoi.
Et puis, c'est un outil aussi d'apprentissage du vocabulaire, de la diction, de la fluidité du langage. Et ça, le texte, évidemment, est au cœur du sujet.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en termes de forme, après, les enfants, quand ils commencent par le classique, ça structure bien l'esprit. Ouais, ça structure bien le phrasé, l'articulation, la déclamation. On est plus à l'intérieur du mot. On l'incarne, on le mange. On apprécie le mot, du coup. Ça devient de la gourmandise, quoi.
On mange des mots.
Exactement.
À l'heure de goûter. Tout à trac, venons-en à la peur qui peut paralyser, le trac raconté par des enfants. Comment surmonter le trac ? Quelles sont les différentes techniques pour piétiner la pétoche ?
Bah, quand j'ai le trac, je respire, je me calme, je fais comme si j'étais en train de répéter et je me lance.
Bah, moi je fais du yoga.
Yoga ? Et ça aide pour calmer le trac ?
Parce que ça me fait penser de ma famille.
Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de faire ça. Et du coup, il faut vaincre la peur. Parce que moi, quand j'étais petite aussi, j'avais peur.
Moi, devant tout le collège encore, je m'en fous. Mais pas devant toute la France.
J'ai trop peur. C'est que si tu fais une bêtise, tout le monde va te regarder. Et un peu bizarrement, moi, je trouve, des fois. Et donc, ils vont se dire dans leur tête ou à côté... Oh, ben, lui, il a pas très bien appris ses chansons ou des mouvements. Et après, ils vont te regarder et moi, j'aime pas trop quand on me regarde. Des fois, oui, mais il y a beaucoup de temps, non, j'aime pas trop. Quand je peins, j'aimerais bien qu'on me regarde parce que c'est du respect. Mais quand je chante, ben, j'aime pas trop, moi. Ben, moi, j'ai pas trop de technique, mais... Des fois, je vraiment pense à respirer et vraiment me calmer, mais des fois, j'arrive pas et ça me fait encore plus énerver. Et moi, j'aime pas trop, donc c'est pourquoi j'aime pas trop chanter devant tout le monde. Et j'ai pas des techniques pour que ça s'arrête. J'en ai pas.
Eh bien, je pose la question à des professionnels, puisque les enfants sèchent un peu sur ce sujet. Que faire du trac, Florian Azoulay ? Faut-il vraiment s'en débarrasser, d'ailleurs ?
Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Je ne sais pas. Il y a toujours un moment, même moi, adulte, quand je fais des lectures, il y a toujours un moment où je peux être pris comme ça par un trac, j'arrive maintenant à le maîtriser, c'est pas plus un trac qui est un trac qui m'empêche, qui fait que je vais perdre mes moyens, mais je crois que, bon, ça évolue avec la vie, le trac.
Mais c'est aussi la preuve qu'on est exigeant avec soi-même, qu'on a envie de bien faire, ça peut être positif.
Mais non, mais ça n'est en fait que positif, ça veut dire qu'on veut bien faire, et nous, ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant, quel que soit l'âge d'ailleurs des gens à qui on s'adresse, c'est de travailler sur la concentration. Je crois que si oui. on est extrêmement concentré, même si on a le trac, ce trac n'est pas un trac qui va nous paralyser. Alors après, j'ai fait moi du piano par exemple pendant des années, je me souviens de mes premiers concerts que je faisais, j'avais les mains qui tremblaient. Bah, quand on a les mains qui tremblent, c'est sûr, c'est un petit peu embêtant.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Mmh. Mais figurez-vous qu'il y a quelques années, j'ai assisté à un concert du grand concertiste Marino Formenti, un grand concertiste en fait, qui joue à travers le monde, il faisait un concert pour une soixantaine de personnes, un petit peu performatif. Je l'ai vu arriver avec les mains qui tremblaient devant le piano. Oh, c'est c'est un homme qui a plus de 50 ans, près de 60 ans. Je me suis dit, ah oui, même chez les grands comme ça, on peut encore avoir les mains qui tremblent avant d'aborder une fugue de Bach.
Ça vient avec le talent, le trac?
Ben, c'est là avec les gens, pour les gens qui n'ont pas de talent, pour les gens qui ont du talent, c'est pour tout le monde.
Clémentine Marmet, qu'est-ce qu'on en fait du trac des enfants?
Alors, du trac des enfants, moi je les prépare justement à ça pour avant les spectacles. Je pense qu'il faut anticiper. Alors c'est très bien d'avoir le trac, hein, un peu de trac avant de monter sur scène, mais il faut pas que ça devienne paralysant. Ce qu'il faut, c'est travailler beaucoup, je pense. Quand on est, il y a des enfants qui ont pas le trac, hein, qui vont comme ça, qui sont dans le jeu, comme les adultes. Hein, il y en a c'est qui rentrent sur scène comme ça.
Mais c'est une forme de flegme, peut-être un peu, je m'en foutiste, si vous me permettez l'expression.
Non, je pense pas. Je pense que ça dépend des natures, en fait. Mmh. Et il y en a qui n'ont pas besoin de se concentrer avant de rentrer sur scène ou qui se concentrent en marchant et puis qui vont directement sur scène, quoi. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au trac, je pense que épuiser le travail, vous voyez, travailler pour ceux qui sont vraiment un petit peu angoissés, c'est Michel Bouquet hein, qui le dit, c'est pas moi. Hein. Il dit justement qu'il faut vraiment user au bout d'un moment tellement le texte qu'au bout d'un moment, on a marre, on veut jouer, quoi. On veut montrer son travail, on veut le faire partager parce qu'on est allé au bout de quelque chose. Et souvent, voilà, dans l'angoisse, on va pas forcément jusqu'au bout, et il faut aller jusqu'au bout de ça. Et avant de rentrer sur scène, c'est bien de l'avoir un petit peu quand même. C'est ça, il faut rentrer sur scène en s'amusant, en jouant, et pas oublier ça.
Il y a des petits rituels pour exorciser le trac juste avant les trois coups?
Oui, on peut faire des petites blagues, ça dépend des enfants. Il y en a qui respirent, il y en a qui se concentrent. Et c'est vrai que c'est bien quand même la concentration, parce que ça permet aussi de canaliser l'énergie et de repenser un petit peu aux objectifs de son personnage. Quand on a un objectif, on a moins peur.
On n'a pas peur non plus sur la scène de Moirans en montagne dans le Jura. Florian Azoulay, je voudrais qu'on parle de ce festival qui s'appelle Idéclic. Il se passe dans cette commune qui est célèbre pour être la capitale du jouet en bois, mais qui accueille aussi chaque année un festival pour l'enfance. Ça se passe du 12 au 15 juillet prochain et vous y serez avec des ateliers et des spectacles. Vous participez avec des lectures à voix haute, je crois. La lecture à voix haute, ça n'est pas du théâtre, mais c'est de la scène. Quelle différence faites-vous entre les deux ?
La grande différence, c'est la question, je crois, de l'incarnation. Lorsqu'on lit à voix haute, on se pose pas tellement la question du personnage. Mmh. On est sur la musicalité, on est sur le tempo d'un texte, on est sur l'envie de faire parvenir les mots d'un auteur, mort ou pas d'ailleurs, de les faire parvenir jusque dans le crâne, enfin, le crâne des gens. Donc, et même si c'est des petits crânes, enfin, quand on lit les aventures de Winnie, par exemple, ou quand on lit Lewis Carroll ou quand on lit peu importe, on a envie que ces mots de toute beauté parviennent jusqu'au plus profond de l'imaginaire de l'auditoire qu'on a face à nous. Donc c'est un exercice extrêmement, extrêmement différent. Oui.
Et c'est vous qui choisissez les textes qui seront lus par des enfants dans ce festival Idéclic à Moirans en montagne cet été ?
Alors, ça fait 3 ans que le festival Idéclic m'invite pour faire des petites performances. Mm-hmm. Et cette année, je crée une petite performance avec une sublime cantatrice qui s'appelle Raquel Camarinien et un pianiste Johan Hérault autour de textes de Francis Ponge, de musique de John Cage. Il y a quelques années, il m'avait invité, j'avais travaillé sur Winnie. Avant, j'avais travaillé sur des contes arabes. À chaque fois, je choisis ma partition, si j'ose dire. Mais c'est un festival où il y a pléthore, enfin, d'artistes sublimes.
Et des enfants partout.
Et des enfants, mais alors, partout.
C'est plutôt déconseillé aux allergiques. J'aimerais qu'on parle aussi de Peter Pan, Florian Azoulay. Vous avez déconstruit Peter Pan, comment ça?
Dans notre école, la Salle Blanche, à la fin de la première année, nous travaillons toujours sur un spectacle. On commence à se lancer sur l'idée d'un spectacle qu'on écrit au début de deuxième année et que met en scène ensuite Xavier Gallet. Bon, l'année dernière, on a décidé donc de travailler sur Peter Pan, parce que Peter Pan, ce mythe littéraire, enfin, que tout le monde connaît...
Voilà, parce que c'est pas seulement un personnage de Disney, c'est d'abord un roman de James Matthew Barry, écrivain écossais.
Exactement. Et oui, et c'est même avant même d'être un roman de James Matthew Barry, c'est en fait une pièce de théâtre. On oublie souvent ça. Cette pièce de théâtre, elle interroge évidemment l'enfance. Qu'est-ce que c'est que vouloir rester en enfance? Alors, on s'est dit qu'en abordant Peter Pan, on abordait quelque chose qui concernait précisément le désir du comédien, le rêve du comédien, c'était d'être l'éternel enfant qui peut retrouver toujours la joie, l'enthousiasme. Bon, nous avons, avec mes élèves, réécrit complètement cette pièce, peut-être en accentuant son aspect un peu sombre et cruel, et puis ensuite, la voilà qui va se jouer pour presque une vingtaine de fois. Voilà.
Et le spectacle s'appelle Deconstructing Peter.
Exactement.
Voilà, prononcé avec mon magnifique accent. On a mis toutes les dates des représentations à la page de Barbatruc. Une voix de la soul américaine sur France Inter. C'était Carla Thomas en 1968. Ce que la scène fait aux enfants. Nous parlons spectacle vivant cette semaine dans Barbatruc et j'ai le plaisir d'accueillir une troisième invitée. Bonjour Charlotte Nessy.
Bonjour.
Bienvenue, merci. Bienvenue à vous. Vous êtes la directrice du théâtre de Vesoul en Haute-Saône, théâtre Edwige Feuillère, et vous allez nous raconter une expérience unique en France que vous pilotez. Ça s'appelle le Moi, voix d'enfant, espace scénique. C'était la 13e édition cette année. Ça a duré tout le mois de mai. Et ça vient de se terminer. Événement qui associe la voix, le théâtre et qui peuple votre théâtre d'enfants pendant un mois. Quels mots vous viennent pour décrire cette 13e édition ?
Alors, je crois que c'est pas seulement un mois, c'est toute l'année. Il y a tellement d'ateliers dans le théâtre, vous imaginez, c'est extraordinaire. C'est un théâtre qui est peuplé d'enfants, je dirais presque jour et nuit. C'est avec ces enfants-là que j'ai aussi construit un public, puisqu'on est passé de 400 abonnés à 2000, dans une petite ville quand même, dans un département très rural. Et mon histoire, elle vient de loin. Elle, en 82, j'ai fondé une compagnie d'opéra, et je me suis dit, finalement, l'opéra touche toujours les mêmes personnes. Donc, dès les années 80, j'ai commencé à me dire, il faut que je fasse un travail avec des enfants. J'ai fait un travail d'opéra participatif où j'intégrais des enfants. On a fait l'ouverture de l'Opéra de Paris avec l'Arche de Noé. Voilà. Et quand j'ai été, donc tout ça, ça m'a, depuis très longtemps, j'ai cette chose de me dire, l'enfant, où est sa place, dans la création aussi, avec des artistes. Ce qui fait que quand j'ai été nommée directrice du théâtre de Vesoul, je me suis dit, poursuivons l'aventure. Et la voix d'enfant, tout à coup, elle a une scène. Donc, c'est la voix d'enfant associée à une scène. Et de là est partie une aventure qui au départ durait une petite semaine, voilà, était un petit peu en, on va dire, enfermée sur elle-même, et tout à coup c'est un mois, c'est plus de 1000 enfants, ça rayonne sur la région, c'est des créations, c'est un vrai laboratoire d'expérience, on essaye toujours de chercher, on essaye d'intéresser aussi des artistes qui n'ont jamais travaillé avec des enfants, de les solliciter pour voir si c'est un plus dans leur création, Jean-Claude Galota, dernièrement Babix, voilà, pour moi c'est vraiment un terrain d'expérimentation extraordinaire.
Et bien justement, on va l'entendre, Babix, le chanteur et musicien Babix qui a participé cette année à Voix d'enfant, espace scénique, extrait d'un reportage diffusé sur France 3.
Moi, j'avais pas envie de leur faire un truc Heidi, la petite maison dans la prairie, tout ça. Donc, essayer de faire une musique qui déjà à moi me parle vraiment, mais en prenant conscience qu'il y a des limites et un cadre qui est posé, qui est effectivement des disparités de niveau, de voilà. Donc, essayer de s'adapter à ça.
Avec la marche des enfants, la scène du théâtre Edwige Feuillère prend des airs de Broadway. Les participants de l'atelier ont appris à chanter, à bouger, à danser, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Il était temps d'investir le plateau, de tout donner.
Du stress au début, mais à la fin, tu ressens surtout de la joie, t'es super contente d'avoir fait ça, quoi.
J'étais méga contente. Il n'y avait que du bonheur en moi, puis j'étais très excitée.
La marche des enfants, c'est le nom de ce spectacle créé par Babix pour votre théâtre de Vesoul, Charlotte Nessy. Comment choisissez-vous les enfants qui participent à ce grand festival ?
Je ne les choisis pas. Il n'y a pas de sélection.
Vous
c'est ça qui est merveilleux.
Monde.
Oui, de 8 à 18 ans. Et c'est ça qui fait un brassage extraordinaire et qui fait que aussi dans le public, on retrouve des gens extrêmement différents. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui emmènent leurs parents au théâtre, puisqu'on demande aux enfants qui participent à un des projets, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a aussi 15 jours de semaine école au théâtre, donc ça fait un mois et demi, on demande aux enfants d'être aussi spectateurs, parce que je me suis rendu compte que des enfants qui étaient sur scène n'étaient pas forcément des spectateurs. Et pour moi, c'est important.
C'est vraiment votre ambition première de faire entrer les enfants au théâtre et donc les futurs adultes au théâtre ?
Ben, c'est les futurs adultes, il faut au moins leur donner accès. Voilà. Après, c'est trop difficile. Après, on dit, c'est pas pour soi le théâtre. Ce théâtre-là qui est au milieu d'une petite ville, dans un département très rural, si déjà il n'y a pas une ouverture plus grand, c'est très difficile de pousser la porte.
Il vous paraît évident ce lien entre monter sur scène et ensuite s'installer dans un public pour aller voir du spectacle vivant ?
Moi, je le crée automatiquement. C'est la seule chose qu'on demande aux enfants. Je me dis que, en fait, je suis très exigeante. Je suis encore plus exigeante sur les projets avec les enfants qu'avec des adultes. Et techniquement, il faut qu'on soit parfait. Voilà, il faut que tout l'encadrement soit parfait au niveau pro.
Quels sont les retours de parents, des enfants qui participent à cet événement à Vesoul ?
Je pense que forcément, ils les voient changer. Notre idée, c'est surtout aussi qu'ils accompagnent leurs enfants dans leur manière de grandir. L'idée n'est pas du tout que ce soit que des petits artistes qu'on forme, hein, pas du tout. On n'a pas un cœur constitué, on a des projets chaque année où les enfants s'inscrivent. Alors il y a des enfants qui ont 6-7 ans, Babix s'est retrouvé avec des enfants qui avaient 6-7 ans d'atelier avec un niveau extraordinaire, ils avaient fait Jean-Claude Galota, ils ont fait un gros projet Benjamin Britten, donc forcément. Mais il y a vraiment... Oui, notre idée c'est de les accompagner à grandir.
Ça fait grandir tout le monde, à votre avis, Charlotte Nessy. C'est une question que je posais aux deux autres invités en début d'émission. Est-ce que vous diriez que c'est pour tous les enfants, la scène?
Absolument, et surtout de les considérer comme des adultes, ne surtout pas les confiner à être enfants. Ce qui veut dire que aussi c'est dans le choix aussi des textes, dans le choix des musiques. Voilà, moi je fais pas de concessions, je passerai les mêmes commandes à des artistes. Je dis pas venez écrire pour des enfants.
Donc l'exigence avant
tout. Absolument.
Et on vous trouve pénible parfois, trop exigeante?
On me regarde quelquefois avec des yeux ahuris. Là, Féloche est venu. Dernièrement, il a fait un très gros projet avec 250 enfants. Pendant un an, il est venu. C'est un vrai engagement hein, aussi des artistes. Hein. Il faut vraiment qu'ils aient envie et qu'ils y croient. Et justement, je lui disais, c'est pas les petits-enfants, quoi. On vient pas faire les petits-enfants.
On vient faire un vrai spectacle.
Pro, et c'est ça aussi, on voit bien les artistes. Il y a eu Barcella, Féloche. Ça leur donne une autre manière d'empoigner leurs concerts. Et c'est ça qui est formidable.
Écoutons à nouveau des paroles d'enfants et d'ados, toujours au micro de notre reporter Juliette Proutot, ce que monter sur scène leur apporte.
Si c'est dans un cadre où on est à l'aise, où on ne nous force pas forcément, je pense que c'est bien pour aussi un peu vaincre sa timidité et tout. Et même dans le cadre d'une école ou d'un groupe ou d'un truc sportif, c'est bien parce qu'on est avec ses amis et tout.
Donc il faut un peu faire ça, mais pas tout le temps. Des fois on peut avoir le trade et après on ne veut plus le faire.
Moi, je trouve ça bien, mais je pense qu'il faut savoir respecter aussi les limites des enfants et savoir adapter un peu les projets. Par exemple, faire du chant alors qu'il y a des élèves dans la classe qui vont pas du tout être à l'aise avec ça, ça serait contre-productif et ça serait juste pas bien pour eux. Donc, autant adapter et faire plusieurs spectacles.
Je pense que ça permet aussi aux enfants de sortir d'un truc assez scolaire et apprendre dans un système plus ludique et... Enfin, par exemple, le théâtre et tout, ça nous permet d'apprendre des choses sur comment fonctionne le théâtre, comment on joue au théâtre et tout, mais de façon plus ludique pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'à l'école, souvent, c'est un peu du par cœur et puis l'intérêt, il n'est pas forcément là tout le temps, quoi.
Respecter les limites de chacun, ne pas demander la même chose à tous les enfants, disait l'une des adolescentes qu'on vient d'entendre, Florian Azoulay. Je rappelle que vous dirigez une école de théâtre à Paris. Évidemment, ça peut être que du sur-mesure, la pratique du théâtre pour les enfants.
Oui, c'est que du sur-mesure, bien sûr. Il faut à la fois être concentré sur chaque élève qu'on a face à soi, chaque enfant, étudiant qu'on a face à soi. Mais je crois qu'il faut aussi ne pas trop penser à eux. Je crois qu'il faut penser surtout... à la joie que procure le fait d'enseigner la littérature. Et si on est concentré sur sa joie de transmettre les choses, il y a quelque chose qui va se passer forcément pour l'autre. Si on est toujours là à nous occuper, voyez, de l'ego de chacun, en lui avec son parcours, ses difficultés, il faut pas trop lui donner ça et lui, oui, il faut faire un petit peu du sur-mesure, mais il faut aussi balayer ça et rester extrêmement concentré sur l'exigence, voyez, parce que sinon on risque de proposer des choses que l'autre peut faire facilement. Et il s'agit pas de faire des choses faciles. Il s'agit de se dépasser. Il s'agit que la personne qui croit se connaître ou que nous on croit connaître, non, en travaillant un texte, elle va apprendre l'autre être qu'elle est et qu'elle n'imaginait pas être.
Il y a un mot aussi que je retiens dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le mot ludique. Il est important, Charlotte Nessy, à votre avis, que le théâtre soit toujours un jeu d'enfant?
Forcément, à l'arrivée, c'est ludique, mais ils voient aussi tout le parcours qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que c'est vrai, le temps à gérer sur, par exemple, sur une année pour des petits de 8 ans, ils ont absolument pas conscience du timing. Mais il y a toujours à l'arrivée, voilà, cette chose merveilleuse d'un spectacle qui se crée. Voilà, ça, c'est extraordinaire. C'est là où, probablement, le mot ludique peut être employé pour eux.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette 13e édition de Voix d'enfants à Vesoul?
Des tas de choses différentes, c'est tellement dense, ça va des enfants, parce que nous on fait aussi, les premiers projets qu'on fait c'est dans les écoles. Ensuite les enfants peuvent sortir des écoles et venir au théâtre gratuitement. Ensuite on fait des projets que dans des écoles toutes seules, voilà. Donc on a des tas de projets très différents. Là par exemple, quelque chose qui m'a bouleversée, je croise un petit garçon là, il y a deux jours, et il me regarde et je lui dis, tu as chanté? Je me suis dit, je me plante pas trop. Il me dit oui, mais je ne suis pas venue à la représentation. C'est-à-dire qu'au dernier moment, les parents son papa ne l'a pas emmené. Et ça m'a touchée parce qu'il m'a regardée comme si j'étais une fée. Mais voilà, et c'est aussi ça les parcours qui se font, que quelquefois les enfants font une trajectoire. Et je me suis dit, c'est bien, il en a gardé quelque chose quand même de très lumineux.
Des parents qui n'ont pas mesuré l'importance de ce spectacle, de ce jour J pour l'enfant. Clémentine Marmet, c'est la saison des spectacles de fin d'année. Comment vous vous sentez?
Ça arrive, oui, ouf. Oui, il y a 15 représentations là qui vont avoir lieu au mois de juin. Donc, les enfants, je pense, sont préparés. J'ai bien briefé les parents au niveau du texte, parce qu'un texte, ça s'apprend pas comme un texte de théâtre, comme une poésie. Il faut le connaître d'autant plus. Et c'est vrai que je leur donne cette technique de comment connaître un texte mieux qu'une poésie. Alors parfois, il faut faire une deuxième action, par exemple, en disant le texte, une fois qu'il est appris. Hein. Par exemple, se brosser les dents même temps qu'on dit le texte. Alors ça en met un peu partout, hein. Les parents sont pas forcément contents. Mais ou faire un gâteau, tout en disant les ingrédients, par exemple, hein, c'est des exemples. Hein. Et ça, le fait de parler en même temps que l'on dit son texte, ça donne une adresse aussi.
Ah oui.
Ouais, on est autre part.
Parce que la scène, c'est aussi l'endroit de l'expression corporelle, évidemment.
Mais bien sûr.
Ça permet de réfléchir. Faire du théâtre, ça permet de réfléchir à ce que disent nos gestes et nos mouvements, Clémentine Marmet.
Mais oui, il faut réfléchir à ça. Alors, pas trop sur scène. Parce que si on commence à gamberger, à se dire, mais elle m'a dit ça. Non, en fait, il faut réfléchir en amont, comme le font les comédiens professionnels, d'ailleurs. Et puis après, de toute façon, les enfants, c'est assez instinctif, quoi. Quand ils sont sur scène, ils jouent toute la journée. Donc, on se pose la question, bien sûr, dans le travail. Et puis après, quand ils se lancent, il faut surtout pas réfléchir. Non, il faut être plus sur l'instant.
Vous les voyez, Charlotte Nessy, les effets sur le corps, les effets sur le rapport au corps des enfants?
Forcément. Ça, c'est clair, hein, chez tout le monde, mais à des moments différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps. Voilà, on les accompagne et tout à coup, on les retrouve plus pareils, ils grandissent. Moi, j'aime bien les accompagner. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les accompagner dans leur rythme à eux.
Et on précise que les inscriptions pour le théâtre de Vesoul, c'est en ce moment pour jouer l'année prochaine,
Absolument.
Au mois de mai,
ce
magnifique événement Voix d'enfant. Alors, il est temps à présent de retrouver notre rendez-vous avec la littérature jeunesse. Voici Denis Chessou et son regard sur l'actualité des livres pour enfants. Bonjour Denis.
Dorothée Barbage en France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. On débute par L'autre côté de la montagne, signé Géraldine Alibeux aux éditions Cambourakis à partir de 5 ans. Deux sœurs intrépides aguerries à la montagne partent en randonnée sans les adultes. Elles veulent voir plus loin.
Et je veux voir ces paysages que tante Jeannette rapporte dans ses carnets.
Elle lui pique sa carte IGN de 1978. Méfiance. Le plan, 7 jours de marche avec le matériel adéquat pour faire le tour de la montagne.
Nuit en refuge. Et réveil le lendemain à quelle heure, les enfants? 8 heures. Ah oui, l'heure des marmottes, dit la gardienne.
Oui, mais tempête. Alors attente prudente, accalmie et puis départ, carte et boussole pour se diriger.
Existe-t-il encore l'abri qui est sur la carte?
Au fur et à mesure de la montée, plus rien ne leur est familier.
La cabane! Sauvée! Ma sœur s'est allumée un feu.
Le lendemain, ce sera la crête convoitée et la découverte de l'autre versant promis par les dessins exotiques de tante Jeannette. Mais il y a du brouillard.
Lorsque je tends le bras, mes doigts commencent à disparaître. Nous marchons à 20 cm l'une de l'autre.
Alors cet album, c'est d'abord une immersion incroyable dans l'histoire et le paysage. Une grande sœur protectrice qui ne montre pas son découragement quand la fatigue, l'angoisse peuvent être là et qui prend la main de la petite.
Immersion dans les paysages?
Eh oui, parce que parfois 4 doubles pages sans texte et des couleurs tranchées caractéristiques de la pratique du croquis de Géraldine Alibeux. Brouillard, disais-je, mais féerie.
Des cornes émergent d'un nuage. Deux yeux brillants me regardent avec curiosité. Puis 4, 6, 8, je suis entré au royaume des bouquetins.
Fenêtre ouverte sur la montagne avec une atmosphère de différentes couleurs, douceur ou âpreté, mais d'une beauté sidérante. On est englouti par les lumières différentes au fur et à mesure de la journée, par des respirations sans texte, vous savez, comme dans la montagne où on ne parle pas, où on observe.
Et ce n'est pas l'exploit qui compte, Denis.
Ah, non, elles n'ont pas pu mener leur aventure au bout, mais rien de grave. Elles sont très heureuses, fières de leur aventure, qui parlent de leur expérience de liberté. Donc réussite pour ce livre au format exceptionnel d'une 100aine de pages, un album qui laisse passer le temps, L'autre côté de la montagne, Géraldine Alibeux aux éditions Cambourakis, c'est à partir de 5 ans. à partir de 4 ans et pour plus. Une histoire de regard de Bérangère Marie-Lier Gobert et Clémence Sabag aux éditions Le Diplodocus. L'histoire du jour, vous la connaissez ? Ça dépend simplement du regard que l'on pose dessus. Et cette histoire commence au commencement de la vie.
Qu'est-ce qu'il regarde ? Un petit cœur qui bat à l'intérieur.
C'est le regard de deux parents que vous empruntez ici.
Qu'est-ce qu'il regarde ? Un premier sourire.
Les grandes étapes d'une vie qui démarre.
Puis un, deux, trois très grands pas.
Le temps file et des vocations naissent rapidement sur les murs de la maison.
Oh, qu'est-ce qu'elle regarde ? Du jus de chaussettes moisies.
Alors là, l'enfance s'évanouit, les années passent et certaines personnes restent. Un jour, il est temps de partir et d'aller vivre sa propre vie, ailleurs, dans une autre ville.
Qu'est-ce qu'elle regarde ? Ce qu'il reste à découvrir.
Parmi ses découvertes, il y a celle de l'autre, de l'unique.
Qu'est-ce qu'elle regarde ? Lui.
Celui avec qui désormais son regard va se mêler.
Qu'est-ce qu'il regarde ? Des défis à relever.
Et à leur tour, ils peuvent faire le choix de démarrer quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qu'il regarde ? Une nouvelle histoire qui commence.
Alors à travers un jeu de points de vue délicatement illustré, où les émotions sont traduites avec douceur, c'est un livre qui raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte, avec tout ce qu'il comporte de joie, de surprise et d'obstacles à surmonter. En cultivant l'attente, à chaque page où certaines situations se révèlent sous des rabats, eh bien le livre parvient donc à solidement ménager ses effets, à nous attendrir, et ça permet aussi donc un dialogue avec les petits lecteurs, et ça va leur laissez imaginer la suite. Une histoire de regard, Bérangère Marie-Lier Gobert, Clémence Sabag, édition Le Diplodocus, c'est à partir de 4 ans. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne fin d'émission, Dorothée.
Et on clique à la rubrique « L'as-tu lu mon petit loup ?» sur le site de France Inter pour retrouver les références des livres conseillés par Denis Chessou. Je suis toujours avec mes trois invités qui font monter sur scène des enfants et des ados. Florian Azoulay, Charlotte Nessy et Clémentine Marmet. On approche de la fin de cette émission. Il est temps que je vous pose la question rituelle de Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Florian Azoulay.
Je vais essayer d'être le plus sincère. Il y a une odeur qui m'a frappé parce que je l'avais complètement oubliée, qui m'est revenue comme ça dans les narines il y a quelques années. C'est l'odeur de la chambre où j'ai fait pour la première fois l'amour. Donc précisément l'âge où on passe, le moment où on passe un peu de l'âge de, enfin de l'enfant à l'âge adulte. Et j'avais complètement oublié cette odeur. Et puis un jour j'entre dans une pièce qui n'avait rien à voir, c'était pas du tout la même ville, et j'ai ressenti cette odeur et je me suis dit mais oui, c'est l'odeur de la pièce où j'ai fait l'amour pour la première fois. Donc bon, c'est un petit peu une odeur intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte.
Souvenir olfactif, s'il en est. Même question, Clémentine Marmet, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors l'odeur des lauriers roses et rouges qui étaient dans le jardin de mes grands-parents dans le sud de la France, à Mandelieu. Je passais mes étés avec mes cousins à monter des petits spectacles justement. Et ma grand-mère qui était peintre en a fait un tableau qu'elle m'a donné. Et il est attaché, ce tableau, dans mon salon. Et il me rappelle mon enfance.
Charlotte Nessy, et vous ? Quelle est l'odeur de votre enfance ?
Sans réfléchir, j'étais une petite fille qui se promenait énormément la nuit dans la campagne. Et donc c'est l'odeur de la terre la nuit qui est très particulière.
Ça sent pas pareil que le jour ?
Non. Et c'est une maison qui existe toujours, dans laquelle je vis toujours, à 20 km de Vesoul.
Elles sont superbes, les odeurs de la semaine. Une chambre, des lauriers roses et rouges et l'odeur de la terre la nuit. Ces trois parfums rejoignent notre très grand bocal dans lequel on fait un inventaire olfactif au fil des semaines. On trouvera sur le site de Barbatruc toutes les infos sur vos activités diverses et variées à tous les trois. Celle du théâtre Edwige Feuillère à Vesoul. On rappelle que les inscriptions ont démarré pour participer à ce magnifique événement Voix d'enfants, espace scénique. Ce sera la 14e édition l'année prochaine. Je rappelle que le festival Idéclic dont on a parlé, c'est à Moirans en montagne dans le Jura du 12 au 15 juillet, avec la participation de Florian Azoulay. Le théâtre de Clémentine, c'est à Paris, tout comme la Salle Blanche, deux écoles de théâtre recommandées par Barbatruc. Merci mille fois à tous les trois.
Merci beaucoup.
Et vive le spectacle vivant. À bientôt sur France Inter.